Rennes meurtrier ce matin à Valence, deux morts, une conseillère de Pôle emploi tuée dans son agence et la DRH d'une entreprise. Le meurtrier a été arrêté. On ne connaît pas encore ses motivations. Jean-Luc Boujon sur place. Les indicateurs de l'épidémie virent au rouge et devraient conduire l'exécutif à prendre de nouvelles décisions ce week-end. Jean Castex vient d'entamer ses consultations à Matignon. L'arrivée haletante du Vendée Globe après 80 jours de mer pour la première fois dans l'histoire de la course. Le premier à toucher terre, Charlie Dalin, n'est pas le gagnant. C'est Yannick Bestaven, arrivé dans la nuit grâce aux compensations dont il bénéficie après s'être dérouté pour sauver Colin Escoffier. Bestaven sera en ligne avec nous aux côtés de Corinne Boulou. Et puis, autre invité d'Europe Midi, l'inventeur du vaccin qui vient d'être abandonné par l'Institut Pasteur, Frédéric Tanguy, les raisons et les mystères d'un échec français. Frédéric Tanguy qui publie « L'homme façonné par les virus » chez Odile Jacob.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Valence dans la Drôme ce matin, un homme fait irruption dans une agence Pôle emploi et ouvre le feu sur une employée qui succombe à ses blessures. Il a pu être arrêté après avoir fait une autre victime dans une commune proche en Ardèche. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place.
Oui Patrick, et c'est la consternation ici hein, près de l'agence Pôle emploi de Valence, une agence située en plein centre-ville, hein, le long de la grande artère Victor Hugo. Effectivement, l'homme est arrivé vers 8h30 et très rapidement il a fait feu sur une conseillère Pôle emploi, une femme de 51 ans, qui a rapidement succombé à ses blessures. Il a ensuite quitté les lieux, traversé le pont qui enjambe le Rhône pour se rendre en Ardèche dans une entreprise, Faune Environnement, où il avait travaillé il y a une dizaine d'années. Et là, il a également fait feu sur une femme chargée des ressources humaines, une femme qui, elle aussi, est décédée. Alors la police est parvenue à l'interpeller juste après, avec difficulté, hein, après l'avoir prise en chasse. Et l'homme âgé de 40 ans est actuellement en garde à vue. Alors concernant ses motivations, effectivement, on les ignore encore. On peut juste dire qu'il n'y a pas a priori de visée terroriste, mais plutôt un motif personnel, mais qui n'est pas établi à ce stade, explique le procureur de Valence, Alex Perrin.
Je suis incapable de vous dire s'il connaissait cette malheureuse victime, s'il l'avait déjà vue avant. Est-ce qu'il a agi vraiment de façon hasardeuse? Est-ce que c'est la première qui s'est présentée qu'il a agressée ou est-ce qu'il la connaissait? C'est l'enquête qui nous le précisera, tout comme on ignore s'il connaissait, puisqu'il avait son historique au sein de Faune est déjà relativement ancien, on ignore s'il connaissait l'employé de Faune sur laquelle il a fait feu tout à l'heure.
Alors, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que cet homme originaire de Nancy était bien demandeur d'emploi, mais était-il inscrit dans cette agence-là? On l'ignore pour l'instant. Une cellule psychologique a été mise en place pour les employés de Pôle emploi et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, est attendue ici à Valence dans l'après-midi.
Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 à Valence, en direct. Des marins exténués sur des bateaux amochés qui défilent à la queue leu-leu devant le port des Sables d'Olonne après 80 jours autour du monde. Cette finale stupéfiante d'une course d'anthologie où le premier à toucher terre, Charlie Dalin, n'est pas le gagnant. C'est Yannick Bestaven, proclamé vainqueur après avoir dû se dérouter pour sauver Colin Escoffier. Vous vous en souvenez? Corinne Boulou, vous continuez d'assister à ses arrivées aux Sables d'Olonne comme à la parade.
Pour illustrer ce final inédit, une quinzaine d'heures seulement sépare le vainqueur Yannick Bestaven du cinquième sur la ligne. Le navigateur allemand Boris Herrmann a franchi la ligne en fin de matinée sous voilure réduite après avoir anéanti toute chance de podium lors d'une collision hier soir avec un chalutier dans le golfe de Gascogne. Le Vendée Globe, c'est une galère par jour, disait le double vainqueur Michel Desjoyeaux. Eh bien, les premiers ont eu leur lot quotidien de pépins plus ou moins graves. Ils nous les ont détaillés dans la nuit vendéenne au fil des arrivées de 20h35 hier avec Charlie Dalin, le premier sur la ligne, à Yannick Bestaven bouclant dans le bonheur son tour du monde en solitaire victorieux à 4h09 ce matin. Les deux navigateurs rentrés ensemble dans le chenal sont tombés dans les bras l'un de l'autre une fois au ponton. Yannick Bestaven, vainqueur à 48 ans, n'hésitant pas à déclarer qu'il y avait deux vainqueurs sur ce Vendée Globe. En tout cas, avec Charlie Dalin, il aura animé cette édition qui restera dans l'histoire de la course au large.
Et Corinne Boulot, Sables d'Olonne. Et à vos côtés, un vainqueur épuisé, mais fou de bonheur. Bonjour Yannick Bestaven.
Bonjour.
Vous êtes le héros d'une aventure et d'une course extraordinaire qui n'a jamais été aussi disputée. Vainqueur 12 ans après un premier départ malheureux. Vous aviez dématé après 30 heures de course. Il y a un goût de revanche ce matin.
Oui, c'est sûr que c'est une belle récompense. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut rien lâcher, toujours croire en ses chances. Et moi, j'ai mis 12 ans à revenir sur le Vendée Globe. Après un dématage en 2008 et être sacré vainqueur du Vendée Globe 12 ans après, c'est une belle revanche. Ouais.
Vous avez fait la course en tête pendant quoi, un mois? Vous avez passé le Cap Horn en premier et après, plus de vent. Vous étiez englué, tous vos rivaux à vos trousses qui étaient en train de vous rattraper. C'était déprimant, décourageant ce moment, Yannick Bestaven?
Oui, c'était déprimant, c'était décourageant. J'ai perdu 450 000 en 2-3 jours. Et en plus, je ne pouvais rien y faire, quoi. La route était barrée par une zone sans vent. Donc, c'était un problème de timing. Je suis arrivé trop tôt au mauvais endroit. Et quand j'ai vu tout le monde revenir et me dépasser, je ne croyais plus en mes chances de victoire. Donc, il a fallu se ressourcer, se refixer des objectifs à court terme. D'abord, tu vas finir le Vendée Globe, c'est bien. Après, tu vas finir dans les 5, c'est pas mal. Et puis, au fur et à mesure, commencer à avoir les places un peu plus haut pour venir jouer la gagne, quoi.
Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est encore possible à ce moment-là? Vous êtes tout seul ou il y a des gens, vous êtes en communication avec à terre avec des gens qui vous disent tu peux encore gagner, il faut y croire, il faut continuer?
Oui, on a des communications à terre, on a la famille, les proches, ma compagne, l'équipe technique. Tous ces gens-là nous aident à nous ressourcer, à pas péter les plombs, comme on dit. Et puis de toute manière, on est tout seul, hein, c'est à nous à gérer ça. Donc il faut vite trouver les ressources. De toute manière, le Vendée Globe, comme je disais, c'est un ascenseur émotionnel. Hein, on passe de tout bien à tout mauvais et plusieurs fois par jour. Donc entre les problèmes techniques qu'on peut rencontrer ou le mauvais temps ou le manque de vent ou tout ce qu'il y a à surmonter, c'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel, ouais.
Une pensée ce matin pour Charlie Dalin qui a coupé la ligne en premier et qui est impeccable de fair play.
Oui, j'ai trouvé ça très fair play. Ça m'a fait plaisir. J'avais un peu peur de cette arrivée parce que j'entendais les polémiques à terre par rapport au temps compensatoire. Et Charlie a bien expliqué que voilà, moi je m'étais détourné pour le sauvetage de Kevin Escoffier dans l'océan Indien et que c'est du temps que j'avais perdu et qu'il me devait du temps pendant qu'eux avaient continué la course et que c'était normal que je prenne la première place. Et c'est très sportif de sa part parce que je sais que quelque part, comme tout compétiteur, c'est dur de laisser la première place alors qu'il a coupé la ligne en tête. Mais il a été très reconnaissant là-dessus et a certainement fait taire les polémiques par rapport à cette compensation, qui est tout à fait normale.
Dalin qui a dû bricoler, enfin plus que ça, même réparer son bateau. Herman qui a heurté un bateau de pêche dans les derniers milles. Louis Burton a terminé sans eau douce, presque plus de nourriture et sans pilote automatique. Et vous?
Oh, moi j'ai terminé avec beaucoup de choses en moi sur le bateau. J'ai les enrouleurs qui sont tordus suite à... J'ai enfourné dans des grosses vagues, j'ai eu une mer très très formée lorsque j'ai passé le Cap Horn, plus de 10 mètres de creux. Donc toute la plage avant du bateau était abîmée. Donc j'ai fait sans certaines voiles depuis le Cap Horn et je voyais mal comment je pouvais remonter l'Atlantique et garder la première place et ça l'a quand même fait. Donc voilà, je pense que tous on a eu nos lots de problèmes et c'est pour ça que le Vendée Globe est un marathon. Et en plus de savoir faire de la course, il faut savoir réparer son bateau et savoir courir avec un bateau qui est plus à 100% de son potentiel.
Écoutez, bravo. Bravo à nouveau. Retour à La Rochelle bientôt.
Ouais, très vite, j'espère, très vite, surtout pour aller voir les matchs du Stade Rochelet.
Merci beaucoup Yannick Bestaven.
Merci, à très bientôt.
Et les arrivées du peloton de tête continuent de se succéder au Sable d'Olonne. Corinne Boulou vous le disait, Jean Le Cam, qui va finir 8e, n'est plus qu'à une centaine de milles des côtes vendéennes.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, la situation sanitaire qui se dégrade, l'incertitude sur les vacances de février.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Pour la crise sanitaire, rien de fameux avant les décisions présidentielles prévues ce week-end. Emmanuel Macron pourrait intervenir dimanche ou lundi, d'après les informations d'Europe 1. Anne Le Gall, il y a deux types d'indicateurs. Ceux qu'on n'a pas encore sur la diffusion des variants plus contagieux et qui sont très importants. Et ceux dont on dispose au jour le jour sur le rebond de l'épidémie et qui sont assez inquiétants.
Inquiétant, oui, car les courbes en attestent. Le couvre-feu n'est plus suffisant pour ralentir l'épidémie. Le taux d'incidence augmente au niveau national depuis le début du mois. Depuis 3 semaines, le nombre des hospitalisations quotidiennes est reparti à la hausse et l'impact du variant britannique plus contagieux est de plus en plus préoccupant. Les dernières données montrent que ce variant représentait déjà 3% des contaminations début janvier, le double de ce que l'on pensait. Et selon les hôpitaux de Paris, il concernerait désormais 10% des contaminations en Île-de-France. Pour l'épidémiologiste Pascal Crépet, les résultats d'une nouvelle enquête seront déterminants dans les jours qui viennent.
On sait comment il s'est propagé au Royaume-Uni et au Danemark. On sait que ça a été très rapide. Néanmoins, les mesures qui étaient prises à ces moments-là n'étaient pas exactement les mêmes que celles qui sont prises aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que ce deuxième point d'enquête flash qui va arriver la semaine prochaine va nous permettre de voir à quel pourcentage de variants anglais correspond à la circulation actuelle.
On attend ces chiffres, mais certaines projections montrent qu'un niveau de tension hospitalière équivalent à celui de novembre pourrait être atteint mi-février. Le gouvernement n'aura donc peut-être pas d'autre choix qu'un confinement strict, avec éventuellement des vacances scolaires rallongées.
Anne Le Gall, Olivier Véran reprend la parole à 14h depuis le ministère de la Santé. Incertitude, vous venez de le dire encore sur les vacances scolaires de février. Un allongement de ces congés pour freiner l'épidémie fait bien partie des hypothèses examinées par le gouvernement, indique son porte-parole Gabriel Attal. Le ministre Jean-Michel Blanquer considère de son côté qu'une fermeture des écoles serait un échec pour le pays. Et puis à Matignon, Jean Castex a repris ses consultations ce matin. À noter que l'Allemagne envisage une réduction drastique de son trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, les pays qu'elle considère comme étant les plus affectés par les nouveaux variants du virus. Un mot encore, on vous le disait dès ce matin, pour le passage à tabac de Youri dans le quartier Beaugrenelle à Paris. 8 mineurs et un majeur ont été interpellés ce matin et placés en garde à vue, soupçonnés tous de tentatives d'assassinat et associations de malfaiteurs. Le temps, Anissa Haddadi, a un temps très pluvieux, avec encore des vigilances dans les Alpes.
Oui Patrick, un vigilance pluie, inondation pour la Savoie et la Haute-Savoie et puis toujours des vigilances avalanches pour les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Soyez très prudents dans ces régions. Cet après-midi, c'est dans l'Est, en Alsace, en Franche-Comté et sur le Massif central que les pluies seront les plus fortes. Sur le reste du pays, le ciel est gris avec un régime d'averse tout au long de la journée. Alors dans le sud, sur les Pyrénées et le long du littoral méditerranéen jusqu'à la Côte d'Azur, là le temps est sec et ensoleillé. Mais attention, le vent souffle fort, on aura de la tramontane jusqu'à 80 km/h. Tout comme à l'ouest, de la Vendée jusqu'au nord, là aussi ça souffle. Les températures, elles sont douces cet après-midi avec 8 degrés à Annecy. Ça grimpe, hein, 11 à Besançon, 13 pour Lyon et Limoges, 15 degrés à Paris et Ajaccio, 17 pour Marseille et Biarritz et 20 degrés la maximale pour Perpignan.
Merci Anissa.